Bonjour à tous et bienvenue sur Nipcraft, le podcast qui vous parle de bière, de bouffe et blabla en tout genre. C'est Warco Brienza qui vous parle, Warco Brienza que vous retrouvez sous cet acronyme dans les médias sociaux. Aujourd'hui, je suis bien accompagné et c'est une paire de brasseurs qui m'accompagnent puisque j'ai, allez, par écran interposé, mais sur ma gauche, Raoul Gendreau.
Salut Marco.
Et sur ma droite, salut Raoul, j'ai Reto Engler, le cofondateur de la brasserie Dr Gabs.
Salut Marco, salut Raoul.
Salut Reto.
Je suis vachement content d'avoir deux brasseurs romands, alors ex-brasseurs, parce que sinon Raoul va me corriger, et puis un brasseur innovant du côté de Reto Engler pour parler en fait d'une boisson qui monte, hein, comme l'indique notre titre, c'est le Hard Seltzer. Hard Seltzer qui est une eau alcoolisée pétillante et qui, depuis 2019, fait pas mal de bruit aux US. On vous a parlé de ce qui se passait outre-Atlantique avec Michel Gauthier. Eh bien, cette fois-là, on ne va pas parler de bière craft à proprement parler, mais bien de cette nouvelle catégorie de boissons alcoolisées que sont les Hard Seltzer. Donc, cette catégorie, l'air de rien, elle n'est pas loin d'épouser de l'ordre de 2% en valeur de l'ensemble des boissons alcoolisées aux US. Donc, c'est pas rien, surtout en ayant commencé depuis si peu de temps. Elle a été élue boisson de l'année 2019 hein, par ce panel retail que j'adore qui s'appelle Nielsen. Enfin, je les adore pas, hein, mais ils ont quand même des chiffres références. Puis c'est pour ça que j'aime bien les citer. Et il y a effectivement plusieurs points en commun entre le Hard Seltzer et la bière craft, puisque bon an, mal an, en tout cas côté US, et c'est en train d'arriver en Europe, les brasseries craft, eh ben elles se diversifient hein, vers cette boisson hein, qui peut être casée comme ça, non loin des bières craft en rayon, mais qui peut aussi être consommée à l'apéro, en bar. Et puis, pas plus tard que l'année passée, Reto Engler et la brasserie Dr Gabs ont fait leur premier test. On en parlera tout à l'heure et on va même les déguster. Et je parle bien de premier test, parce que ça va suivre avec plein de gros acteurs également. Je vais vous parler de Coca-Cola tout à l'heure, qui pour la première fois se lance dans une boisson alcoolisée. C'est déjà sorti, hein, puisque le lancement était annoncé pour avril 2021, et ce qu'il y a de certain, c'est quand Coca-Cola fait les choses, il les fait bien, il les fait pour vendre sur la durée. Donc pour revenir un petit peu à un niveau plus local, on est accompagné par Reto, qui a lancé quelques messages l'année passée à la communauté pour annoncer que quelque chose de nouveau était en train de se passer avec le Hard Seltzer. C'est très bien que tu l'aies fait, Reto, parce qu'à mon avis, il y a besoin d'une certaine éducation sur ce produit qui est nouveau, sur cette catégorie qui est nouvelle. Vous avez commencé par un essai qui était une collab avec la brasserie Saint-Laurentius, qui est basée à Bullard, dans le canton de Zurich. Et puis, ce que je trouvais chouette, c'était peut-être qu'on puisse en parler de manière plus détaillée. Mais avant ça, ce que je propose, c'est qu'on passe à la section communauté. Est-ce que ça vous va ?
C'est parti.
Génial. Alors déjà, je crois que toi, tu as eu l'occasion de frimer, mais c'était pour la bonne cause, Raoul, parce que tu as eu un nouveau micro, et c'est d'ailleurs sur ce micro-là que tu es en train de parler en ce moment, et moi aussi d'ailleurs.
Bah oui, parce que en fait, on s'était posé un petit peu des questions au niveau technique par rapport à la qualité des enregistrements qu'on a fait. Et puis, c'est vrai qu'on était toujours un peu sur notre faim avec Marco, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Et effectivement, on s'est équipé d'un petit micro Shure MV7, qui est un micro exprès podcast. Donc, ça nous intéresse de savoir si de l'autre côté des oreilles attentives pourront nous dire que, oh oui, on a amélioré la qualité du son ou pas. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Nous, on le trouve bien, ce petit micro, hein, Marco ?
Ouais, on le trouve super bien. Et puis c'est vrai que le truc que je serais très curieux de savoir, et je le sais pas pour le moment parce qu'on est en phase d'enregistrement, c'est est-ce qu'on va diffuser la bande, le plan B, tu sais, d'enregistrement Teams, ou est-ce qu'on va pouvoir faire un beau montage comme on aime. Alors là, ça dépend toujours de ce qui se passe pendant l'enregistrement. On fera une petite mention dans les notes. Et puis on a pris le temps qu'il fallait pour pouvoir régler les micros, que ce soit nos deux beaux micros ou celui de Reto. Alors Reto, il a un super Jabra. J'étais à deux doigts de l'acheter. Puis je crois que t'en es très content aussi, hein.
Oui, moi c'est mon investissement spécial Covid 2020 et je suis très content de mon casque Jabra avec petit micro intégré. C'est vrai que voilà, quand je vois vos micros, je suis un peu jaloux quand même, mais voilà, je me console comme je peux.
Moi j'adore parce qu'il y a 20 ans on frimait avec des push-ups quoi, tandis que maintenant avec le travail à la maison etc, on frime avec des gros casques quoi. Hein, les temps changent. Peut-être une petite mention de la précédente émission, parce qu'on a eu un clin d'œil qui nous est venu du Canada, Raoul, hein, d'amis montréalais Puis j'ai envie de saluer Alexandra et Marcus, qui ont bien rigolé quand ils ont entendu ce qu'on racontait entre le 70 et le 70. Donc si jamais, pour tous nos amis francophones, 70 veut dire 70, moi je dirais même que 70 est la manière juste de dire 70. Et puis, outre-Atlantique, ça a bien fait rire, parce que il y a plus d'un anglophone qui devient fou avec les 70, les 80 et les 90 de nos amis français, qui, selon des amis US et canadiens anglophones, n'a aucun sens quand on apprend ça en mode langue étrangère, quoi. Mais je referme la parenthèse là pour annoncer un concours. Et là, on va commencer à rentrer dans la discussion du Hard Seltzer, parce qu'il y a un 4-pack de canettes Hard Seltzer by Dr. Gabs qu'on souhaiterait faire gagner. Je l'annonce déjà maintenant, mais c'est en répondant à une question que vous pourrez gagner. Il y aura un tirage au sort. Donc là, je remercie Dr. Gabs et je remercie Reto pour sa générosité, parce que c'est Dr. Gabs qui offre 4 Hard Seltzer à arôme citron, pour ceux qui se demandent l'arôme qu'on vous enverra. C'est justement cette collab initiée l'année passée avec Saint Laurentius. Et donc, restez avec nous jusqu'à la fin du blabla de la semaine, parce que c'est à la fin du blabla de la semaine qu'on va vous poser la question à laquelle il faudra répondre, soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit sur Instagram.
Mais quel teasing, Marco !
Ouais, on va voir en fonction du nombre de réponses si ça a marché ou pas, quoi.
Et nous, on a de la chance parce que, en fait, on est dans l'émission, on doit la déguster, en fait. Quand même, petite canette, bien eau fraîche, ça sera super.
Exact. Et puis, c'est justement maintenant que ça commence, cette dégustation. Donc là, les gars, je vais vous demander de sortir votre plus belle canette.
Qui commençait à faire soif.
Ah.
J'ai la pâteuse, vu que j'arrête pas de causer, quoi. Vous seriez d'accord, peut-être, de montrer le produit que vous avez dans la main, là, en le rapprochant de la caméra.
Regarde ça, une belle canette, yes. Bien fraîche, en plus.
Ouais.
Alors, Wild Basin, ça vient des US. Et ça, tu nous en diras plus tout à l'heure. C'est, sauf erreur, le goût lime, également de ton côté.
Exactement. Classic lime, pour être précis.
Toi, de ton côté, Raoul ?
Et moi, c'est le Hard Seltzer de Dr. Gabs, celle que tu as présentée tout à l'heure.
Ouais.
Excellent. Et là, on est effectivement sur des produits qui ont entre 4 et 5% de degré d'alcool. En fait, on a les trois, un arôme citrus ou lime. Il faut savoir que c'est l'arôme qui est principalement proposé dans des gammes. Il peut y avoir du grapefruit ou autre chose. Ce qui avait de chouette, c'est que ça permettait peut-être plus facilement une comparaison entre ce qui se fait aux US avec Wild Basin. Moi, j'ai une canette de Dirty, D-R-T-Y. C'est des Anglais qui font ça. Je vais être honnête, c'est un projet qui me paraît moins craft que par exemple Wild Basin ou la canette Hard Seltzer de Dr. Gabs, mais je trouvais quand même cool de pouvoir goûter quelque chose d'un peu plus mainstream en attendant le produit de Coca-Cola par exemple.
Allez, c'est parti.
Allez, santé.
Oh non, ça a giclé sur ma nouvelle mousse de micro, quoi. C'est malin. Vous savez quoi, j'ai décidé de boire ça comme un John, et puis je vais faire une chose que j'ai pas faite depuis des années, c'est de boire un produit à la canette, quoi.
Plus sec. Ah non. Moi, je prends un verre, hein, y a pas de raison.
Ouais. Salut.
Santé.
Santé. Moi, j'ai fait le choix du verre aussi parce que j'étais curieux de voir la couleur que ça avait. Souvent, on voit ces hard seltzers plutôt industriels comme le White Claw, comme ça, qui sont vraiment incolores. Et puis là, je dois dire que c'est aussi le cas pour celui que j'ai dans les mains, qui est vraiment transparent, quoi, comme de l'eau.
Alors moi je vois un petit voile sympathique là, juste qui fait la touche craft assez originale justement, donc du Hard Seltzer de Dr. Gabs. Au niveau du taux d'alcool en fait on sent pas trop parce que c'est pas méga sucré. Moi je pense que la dernière boisson du style que j'ai bu, ça devait être quand j'avais 16 ans ou 18 ans, je sais pas. Ça devait être une Smirnoff Ice ou un truc comme ça. Ça vous rappelle quelque chose, les gars? Donc, on vous a quand même pas fait l'affront de déguster ça. Mais alors, celle-là, je préfère parce que c'est vraiment pas sucré. C'est assez bien équilibré. Et c'est 4,5% d'alcool. Donc, très frais, avec un joli petit côté citronné. Sympa. Vraiment sympa, ouais.
Ok. Donc, toi, ce que tu goûtais, c'est le Hard Seltzer de la brasserie Dr. Gabs. Et toi, de ton côté, Reto?
Alors moi, donc le Wild Basin là de Oscar Blues aux États-Unis. Donc oui, je disais sur la couleur vraiment transparent, on dirait de l'eau. C'est censé être saveur citron. Honnêtement, je le sens peu. C'est vraiment comme si on avait mis juste 2-3 gouttes de citron dans de l'eau. C'est très très léger. Après, ça reste bien bien fait, frais, rafraîchissant. Et aussi, si je compare à d'autres Hard Seltzer plus industriels que j'ai goûté, là je le trouve, on sent qu'il y a un côté assez authentique, c'est pas une saveur qui semble chimique, quoi. C'est vraiment Voilà, c'est du citron, mais on a l'impression de sentir le fruit, la pulpe de citron, je dirais.
Alors moi, c'est drôle, ça me renvoie vers mes expériences d'eau aromatisée. Vous en connaissez peut-être quelques-unes. Moi, j'en ai aussi vendu pas mal, puis j'en ai conçu avant de les vendre. Donc ça me rappelle simplement une énier citron-limette. Par contre, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une saveur chimique. Voilà, je reconnais que ça me rappelle mes fins de soirée où j'avais encore envie de boire quelque chose, mais je me rendais quand même bien compte que j'avais déjà passablement bu. Puis du coup, je mets juste une petite goutte de vodka dans du Sprite. Et puis, ça me rappelle un petit peu cette pointe d'alcool. Donc, j'insiste vraiment sur le fait qu'on devine l'alcool, c'est présent. C'est pas seulement qu'en fin de bouche, on sent que c'est un produit qui est alcoolisé. Mais par contre, si vous n'êtes pas fan du goût de l'alcool, c'est vrai que c'est relativement discret, en tout cas dans cette canette de Dirty. Donc j'ai plutôt le mauvais aspect du soft drink au niveau de la saveur, parce que oui, on sent le citron, mais on sent aussi que c'est pas du citron naturel. Et puis peut-être la bonne surprise d'avoir quelque chose de désaltérant, parce que moi c'est très très gazeux. Et du coup ça désaltère bien. C'est aussi une canette 330 ml. Souvent c'est des produits qui sont entre 25 et 330. Moi j'ai encore jamais vu de plus grosse canette que ça. Donc c'est quelque chose qui est plutôt vite bu, quoi, si on compare ça avec une canette de bière 50 centilitres.
Oui.
C'est un truc que vous pourriez acheter, les gars.
Celui-là, je pense que je pourrais l'acheter. Ouais. Juste, bah, sur le format, là, on est à 355, là, pour être précis. Voilà. Après, je pense que ça dépendrait un peu du prix de vente, parce que je le trouve très 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 light. Voilà, sympa, mais très très léger. Donc, si le prix de vente est pas trop élevé, je pense que je pourrais l'acheter.
Alors moi, je vais être très franc, Marco. Je préfère beaucoup plus la bière Dr Gabs que le Hard Seltzer. C'est pas parce que c'est un manque de qualité du produit. C'est juste parce que c'est moins mon truc de boire une eau minérale gazéifiée alcoolisée qu'une bière. Mais ça m'intéresse justement de savoir un peu comment ça se fabrique, quels sont les parallèles avec la bière, parce que effectivement, Dr Gabs, ils sont connus depuis bien belle longue lurette, hein, on peut dire, pour leur excellente bière artisanale craft. Et comment une brasserie tout d'un coup se lance à innover un petit peu, à faire une diversification sur le marché en lançant des nouveaux produits qui ne sont pas des bières, en fait. Ça m'intéresse de creuser un petit peu avec Reto.
On va en parler parce qu'on avait envie d'aborder un aspect peut-être historique, juste comprendre d'où ça vient. On va enchaîner avec les aspects production et puis on va quand même revenir sur les aspects marché. Déjà parce que ça m'intéresse et puis ensuite parce qu'à mon avis, il y a des choses à dire. Quelque chose qui va tous nous toucher. Peut-être un dernier feedback sur la partie dégustation. Moi, j'arrive bien à comprendre que des personnes, par exemple âgées autour de 25 ans, puissent apprécier ce produit. Par exemple, également des femmes, que j'imagine en plus grand nombre, versus une bière ou un alcool fort. Alors, c'est pas pour faire mon macho, c'est pour mentionner que je pense que vu le goût qui est plus ouvert et le fait que l'alcool n'est pas trop présent dans ce goût, moi, typiquement, j'adorerais boire ça à 25 ans, quand j'ai encore envie de boire un truc, exemple de tout à l'heure. Et puis que, par contre, j'ai largement dépassé la limite. Donc, ce serait une occasion, en fait, une occasion de consommer quelque chose d'alcoolisé, mais sans abus, quoi. Et puis, j'ai l'impression que ça aurait bien marché avec moi à l'époque où je sortais un peu plus que maintenant.
Et d'autant plus si c'est produit localement par une petite entreprise, enfin, qui est devenue grande, mais une entreprise locale, plutôt que voilà, ces marques de grands soft drink et tout, industriels, commerciaux, quoi, américains.
Peut-être un petit truc sur lequel je bute, c'est la canette. Mais ça, c'est peut-être mon côté aussi vieux con. J'entends qu'un produit qui se veut naturel, qui est transparent en plus, ou qui est légèrement coloré, hein, si on veut le teinter et rappeler quel est le fruit qu'on a mis dedans, bah, j'ai l'impression que l'impression de pureté pourrait être plus grande encore. Donc c'est vrai que le coût du format canette, c'est peut-être un bout que je comprends pas, quoi. Mais bon, si vous êtes d'accord, on part sur un côté historique. Je trouvais cool peut-être de demander à Reto, mais le nom même de Hard Seltzer, d'où ça vient? Alors évidemment, tout le monde pense à AK Seltzer. Tu nous as donné une explication tellement bonne en off que j'avais assez envie de te laisser la parole là-dessus, quoi.
Ouais, c'est vrai que je dois avouer que je ne suis pas très fan de ce terme non plus. Le problème, c'est que voilà, c'est très dur d'avoir un bon terme en français. Mais voilà, juste l'origine du terme. Donc, bon, le premier mot à considérer, c'est Seltzer. Qui, ben voilà, en anglais pour les Américains, c'est une façon de dire de l'eau gazeuse. Voilà, c'est une référence à l'eau de Zeltz, qui est ben, celle-là naturellement gazeuse. Mais voilà, c'est devenu une façon de dire simplement eau gazeuse. Donc, eau pétillante, et puis finalement le hard, qui est une façon de dire que c'est alcoolisé, comme voilà, aux États-Unis ils feront la distinction aussi entre le cider, qui est le jus de pomme, et le hard cider, le jus de pomme alcoolisé. Donc on obtient justement ce mot un peu barbare de hard seltzer.
Et puis bah, ce mot, en fait, il est utilisé l'air de rien depuis 2013, où c'est les premières marques de hard seltzer qui sont apparues aux US. Sauf erreur, on parlait de moins de 10 marques entre 2013 et 2014. Et puis, bah, il y en a, j'ai lu ce chiffre quelque part, il y en a 65 qui coexistent aujourd'hui sur le marché américain. Donc hein, c'est un petit peu avancé entre 2013 et 2021, mais on parle d'une boisson qui n'existait pas, tout simplement pas, il y a moins de 10 ans. Et puis qui, en l'occurrence, a eu son succès, qui a eu une forme d'explosion dans les ventes suite à un buzz qui a été fait quelques années plus tard dans les médias sociaux par White Claw. Voilà, une boîte qui a été montée récemment, une boîte qui, elle aussi, a moins de 10 ans, qui a fait son succès avec la catégorie Hard Seltzer, dont elle est leader aujourd'hui, encore aujourd'hui sur le marché des US. On estime, en tout cas, fin 2019, donc ça date quand même un peu, mais quand même, qu'ils ont plus de 50% de parts de marché aux États-Unis. Et puis, on parlait d'un marché qui était estimé à 1,75 milliard de dollars en 2019. Donc, je vous laisse faire un calcul assez simple pour voir les pépettes qu'ils ont pu se faire, White Claw, avec leur part de marché à ce moment-là. Vous les connaissiez, White Claw?
Oui, pour ma part, je les connaissais parce que de nom, parce que c'est voilà justement c'est le leader du marché aux États-Unis. Pour moi, c'est un petit peu l'emblème même du hard seltzer. C'est le produit le plus connu, je pense, à l'international. Et après, au niveau du produit, là, pour avoir goûté, je dois avouer que j'étais un peu déçu, parce qu'on a vraiment ce côté très très chimique qui ressort, quoi.
Puis on parlait tout à l'heure hein, des brasseries craft qui se sont jetées dans la brèche, alors ou simplement des brasseries tout court, pour mentionner un exemple de brasserie, la Boston Beer Company, donc celle-là même qui produit la bière Samuel Adams, hein, qui est très connue en fait aux US et même en dehors des US, ils ont créé une marque de hard seltzer qui s'appelle Truly, qui fait partie du top des marques aux US, hein, qui est vraiment très connue, reconnue là-bas. Je me demande même si elle n'est pas disponible déjà en UK. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, dans le segment bière, il y a des brasseries qui produisent ça, pas que de manière industrielle. J'ai envie de dire que Dr. Gabs en est peut-être un exemple en Suisse. On a vu également, et ça c'est peut-être le développement le plus récent, c'est ce qui me fait penser qu'on est dans une tendance lourde. Je le citais tout à l'heure, Coca-Cola, qui va entrer pour la première fois dans la catégorie des boissons alcoolisées, et qui a déjà lancé en fait Topo Chico Hard Seltzer. Donc le lancement, il était prévu en avril 2021. Je me dis qu'ils ont quand même mis moins de moyens que pour Coca-Cola Zero. Parce que alors, dès qu'ils l'ont lancé, celui-là, tout le monde était au courant que Coca-Cola Zero était disponible. Et puis, en fait, tout ce mouvement, que ce soit de grandes multinationales comme Coca-Cola ou comme Smirnoff, hein, qui revient l'acte 2 après l'Alcopop, que ce soit les bières ou que ce soit les marques qui se sont lancées telles quelles, hein, comme White Claw, on a désormais pas mal d'acteurs qui sont actifs et un marché qui arrive en Europe également.
Mais je pense que le fait que Coca-Cola ne se positionne pas avec un fort marketing dès le départ, c'est quand même pour prendre un peu la température des autres. Tu ne penses pas? Parce qu'ils se lancent dans une diversification où on ne les attend pas. Et ça peut pas se faire avec un mastodonte de marketing derrière. Tu dois habituer petit à petit les gens à en voir et tiens, c'est Coca. Tandis que s'ils sortent avec maintenant Coca fait de l'alcool, ça, aux États-Unis, ça risque de vraiment pas fonctionner, tu vois. À mon avis, ils le font assez intelligemment pour pouvoir développer, comme tu disais, sur la longueur, et développer les volumes, et en fonction de l'avancée du marché, de garder leur part de marché, mais de croître avec cette part de marché de manière importante.
On reparlera justement de part de marché tout à l'heure, mais là, j'avais assez envie de faire le lien avec la partie production, et puis de voir c'est quoi les points communs. Pourquoi est-ce qu'il y a des brasseries qui décident de se diversifier vers cette catégorie hard seltzer? Alors moi, je crois qu'il y a plusieurs points communs, ou qu'il peut y en avoir, que ce soit sur la partie fermentation, ou sur les ingrédients, ou que ce soit ce qu'on ajoute, hein, comme par exemple la saveur, comme les fruits. Vous voulez m'en dire plus, les gars? Parce que c'est plutôt vous qui brassez ou avez brassé.
Bah Reto, vas-y, parce que...
Oui, bah, disons, pour moi, il y a effectivement des points communs, et aussi sur un élément assez intéressant, qui est celui du monde industriel et du monde craft, parce que on retrouve cette même tension, disons, dans le hard seltzer, mais peut-être qu'on y reviendra. Mais vraiment sur la production en elle-même, C'est vrai que, bah, disons, sur la méthode plus industrielle, eh ben, ça va être voilà, en gros de l'alcool qui est mélangé avec de l'eau gazeuse. Et puis sur la version plus craft, eh ben, il y aura une fermentation. C'est ce qu'on a fait nous chez Dr. Gabs, donc voilà, qui du coup ça ressemble passablement au monde de la bière. Une fermentation, sauf que bah, au lieu du malt, on utilise du sucre. Pour amener disons le sucre qui va nourrir les levures. Et au lieu du houblon, eh ben, il y a justement les arômes, les fruits en général, des fruits ou des plantes. Là, sur le produit qu'on a fait avec San Lorenzo, c'était en l'occurrence citron et mélisse pour donner encore un peu de peps en plus. Et disons, voilà, pour moi, ça c'est vraiment sur le côté production, ce qu'on peut dire. Après, il y a le. Pour moi, une des raisons pour lesquelles les brasseries sont présentes, c'est aussi sur les moments de consommation.
Peut-être une question, Reto, que je voulais te poser, parce que finalement, un brassin de bière, il faut attendre 3 semaines pour pouvoir ensuite le packager. Est-ce qu'on est sur les mêmes délais au niveau du hard seltzer?
Oui.
Puisque tu parlais de fermentation tout à l'heure.
Et exactement, dans notre cas, sur notre façon de produire, on est aussi sur à peu près 3 semaines. Là, on a même, ouais, là, ça, on va mettre 1 mois pour la production qu'on fait actuellement, mais c'est donc on est un peu dans les mêmes ordres de grandeur pour justement cette version, disons plus craft, et puis après pour la version industrielle, bah, finalement, ça se fait de manière quasiment instantanée.
Ouais, parce que là, on injecte, tu disais qu'on mélangeait en fait hein, avec de l'alcool, mais on injecte de l'alcool bah, dans la base de boisson qu'on a préparée, et voilà, c'est prêt. Donc clairement, là, on est sur des délais qui sont inférieurs et qui correspondent peut-être plus à la manière de fonctionner d'une multinationale.
Exactement. Là, j'ai l'exemple du Smirnoff devant moi. Donc là, bah, c'est même marqué sur la canette, vodka plus sparkling water. Donc là, voilà, il n'y a pas du tout de processus de fermentation ou autre. En tout cas, au moment de l'élaboration du produit, c'est sûr que la vodka, il a fallu la faire. Mais après, voilà, quand le hard seltzer serait fait, c'est l'alcool d'un côté, l'eau gazeuse de l'autre, les éléments pour donner l'arôme, et puis basta.
Sans traduire des recettes secrètes de production, moi ça m'intéresse un petit peu de savoir au niveau de la fermentation, est-ce que vous partez par une base sucrée au niveau de degré plateau à peu près équivalente à une bière? Donc degré plateau pour mémoire, c'est le gramme de sucre qu'il y a dans 1 litre de liquide. Alors en l'occurrence, ça peut être 120 à 150 grammes environ. Ce sucre produit de l'alcool ensuite. Donc, est-ce que vous partez par une base comme ça ou est-ce que vous brassez, respectivement, vous produisez cette boisson avec un alcool plus élevé que ensuite vous réinjectez en moins grande quantité proportionnellement par rapport au liquide?
Non, alors en fond, on travaille vraiment comme on l'aurait fait sur une bière. C'est-à-dire que voilà, on produit un mou. Simplement, au lieu que ce soit avec le sucre qui vient du malt, eh ben, c'est directement du sucre. Là, on a pris du sucre blanc en l'occurrence, et on obtient un produit avec justement un taux de sucre qui est à peu près identique à celui qu'on a pour une bière légère, je dirais. Et après, ben, voilà, la fermentation va faire le reste et va faire un produit autour des 4 ou 4% et demi d'alcool. Donc on fait pas de produit, disons, concentré qui serait dilué par la suite comme ce qui pourrait ressembler à du brassage haute densité.
High gravity.
Exactement.
Voilà. C'est ça que je voulais savoir. D'accord, ok. Et puis au niveau des arômes, du coup, ça se met plutôt à la fin du processus pour garder effectivement les arômes de fruits maximum naturels, disons, ou bien.
Voilà, les deux peuvent se faire de mettre déjà des arômes, disons, pendant une phase de, disons, avant fermentation, mais disons, nous, on a trouvé des meilleurs résultats en le faisant après coup, donc en produisant d'abord, disons, un hard seltzer neutre et puis en ajoutant les arômes par la suite.
Ok, ouais, intéressant.
Puis je vois que vous avez opté pour la canette également, en tout cas pour le premier opus que vous avez expérimenté avec San Laurentius.
On va conserver ce format-là. C'est vrai que là, bah, pour rebondir sur ce que tu disais avant, Marco, il y a assez peu de hard seltzer qu'on trouve en bouteille. Hein. En Suisse, je crois qu'il y a l'exemple de Sundaes qui est en bouteille transparente d'ailleurs. Mais sinon, c'est beaucoup de la canette. Je pense que ça vient en partie un peu de ce. Bah, quelque part de ce standard américain, et puis notamment le White Claw dont on parlait. Et d'autre part, je pense que c'est aussi bah, lié. Voilà, on parlait d'une cible un peu plus jeune, qui a peut-être un mode de consommation plus. plus nomade, qui sera plus festif, quoi. C'est moins la bière qu'on va déguster au coin du feu tranquillement en fin de soirée, mais peut-être plus le hard seltzer qu'on va mettre dans le sac à dos et puis boire au bord du lac ou comme ça. Mais disons, je pense que c'est aussi lié à ce côté plus, enfin disons, de cible un peu plus jeune.
Tu sais, j'ai remarqué, parce que j'observais la première canette que vous avez produite, c'était déjà dès l'année passée. Je la trouve de très bonne facture, hein, d'un point de vue graphisme, etc. Ça reprend d'ailleurs quelques lignes qu'on retrouve sur la gamme de bières craft. Un truc qui m'a étonné, par contre, et je me demandais, sans révéler de grands secrets, ce soir, vous êtes en train de plancher sur des nouvelles saveurs de Hard Seltzer. Tu me feras une tape sur le doigt, si je ne devais pas le dire à la fin de l'émission. Et tu sais, il y a un truc que vous faites, je trouve, sur votre packaging au niveau des bières, c'est l'histoire autour de l'aspect local du produit et sur le côté artisanal. Et ça, pour le moment, en fait, je ne l'ai pas encore retrouvé sur la canette, mais moi, j'ai l'impression que c'est des arguments qui pourraient malgré tout parler à un public jeune. Toi, tu partages pas cet avis?
C'est vrai qu'on l'a pas fait sur ce produit-là, là, qu'on a fait l'année passée avec Saint Laurentius. Après, c'est aussi que c'était, voilà, vu que c'était en collab, on a fait en l'occurrence une production chez eux, une chez nous, donc c'était peut-être aussi moins lié à un aspect, disons, géographique. Mais voilà, comme t'as révélé, on est effectivement en train de plancher sur des nouveaux produits, donc on aimerait lancer deux produits au courant du mois de juin, donc avec une nouvelle marque, voilà, un peu sous le, pas directement sous la bannière Dr Gabs, mais vraiment avec une marque propre.
Un peu comme Trulli l'a fait, avec un peu comme Boston Beer Group l'a fait.
Voilà, exactement, en mettant un petit peu plus en avant le Dr Gabs, mais disons, voilà, quand même une nouvelle marque. Et là, on a aussi plutôt mis en avant, je dirais, le côté, voilà, le côté frais, léger, rafraîchissant, fruité. C'est un peu ce qu'on a essayé de mettre en avant, et moins, comme tu dis, l'aspect un peu histoire, ou bien petite anecdote, truc un peu marrant qu'on peut mettre dans l'univers Dr Gabs.
Alors moi j'ai pas été mis au secret des nouvelles saveurs, mais en tant que consommateur et habitant du Jorat, hein, comme toi Reto, moi, Hard Seltzer comme ça, aux fleurs de sureau, franchement, ça me tend très bien. Alors, je ne sais pas, on va laisser le suspense, mais moi, ça me plairait bien. D'ailleurs, ça me fait penser, on avait fait de l'anniversaire de mon épouse une fois dans un pyrefuge, et puis on était allé cueillir des fleurs de sureau dans la forêt. On avait fait un petit mélange dans une cuve en plastique. Tu t'en rappelles aussi, de ces petites cuves en plastique de 30 litres,
oui, oui.
Là, Mr. Malt. Et puis, on avait fait fermenter ça, et il fallait viser, en fait, le moment de la consommation pour que ce soit à la fois encore un petit peu sucré, mais pas trop, et pas trop gazeux. Et on était tombé pile poil, donc une petite, ouais, une petite limonade gazeuse à alcooliser comme ça aux fleurs de sureau, ça pourrait être sympa.
Joli, je garde l'idée en tête.
Et puis vous me tendez la perche, les gars, sur les moments de consommation, parce que je trouvais assez cool qu'on parle de ça. Moi, je vois bien, hein, quand est-ce que j'ai envie d'une bière, donc facilement, c'est après le travail. Donc ça peut être en semaine. Autrement, ça peut être le week-end en mode détente, et puis sinon, c'est en mode sortie. Finalement, les moments de consommation d'un hard seltzer, ils sont si différents de ceux d'une bière, Reto, ou c'est complémentaire, c'est concurrent, qu'est-ce que t'en penses?
Il y a un petit peu les deux, je dirais que c'est deux, voilà, deux cercles qui se recoupent partiellement. C'est sûr que voilà, ça reste un produit alcoolisé, donc c'est pas quelque chose qu'on va forcément consommer toute la journée, ça rejoint pas stablement ce que tu disais avant, hein, fin de journée, week-end, etc. Je le vois un peu plus comme quelque chose de disons que tu pourrais consommer je sais pas, si j'imagine un week-end comme ça, si je devais prendre une première boisson alcoolisée en début d'après-midi, je commencerais par le hard seltzer, un peu plus soft, disons, qu'une bière ou qu'un verre de vin. Donc je dirais que c'est un truc un peu, voilà, pour chiller l'après-midi au soleil.
Et c'est plutôt chez toi, plutôt sur la terrasse d'un bar, dans un club?
Et ça, ouais, c'est une bonne question. C'est vrai qu'en Suisse, le produit est encore pas assez connu pour qu'on aille un peu toutes ces références là, mais je dirais que là, quand on sort de une année et demie de semi-confinement, ce sera plutôt sur la terrasse, ouais.
J'ai annoncé qu'il y avait des nouveautés qui se préparaient chez Dr Gabs. Alors, sans peut-être révéler les saveurs, tu peux peut-être nous dire à quel moment vous avez prévu de lancer ces nouveautés?
c'est voilà, nous le but c'était vraiment de proposer ça avant l'été, enfin disons au début de l'été, donc ce sera là sur début juin, donc voilà, on est c'est une affaire de semaine, donc suivez l'actualité de Dr Gabs prochainement, et puis on en parlera tout bientôt, donc mais effectivement deux saveurs qui vont sortir, qui vont être très sympas.
Eh bien, la suite, alors pas au prochain épisode, mais simplement en observant les rayons de vos magasins préférés, puis peut-être quelques bars aussi que vous aimez bien, parce que je serais pas étonné que Dr Gabs aille aussi lorgner du côté de l'Horeca, hôtel, restaurant, café, pour qu'on puisse avoir des terrasses avec une multitude de choix pour l'apéro. Ça tomberait plutôt bien en période post-Covid.
Là, faudrait commencer par ouvrir les bistrots, hein, déjà. Oui, il faut de l'espoir.
C'est pas faux, c'est pas faux. Je trouvais intéressant ce que disait Boston Beer Group, en tout cas la direction de Boston Beer Group. Et là, du coup, j'avais envie de redemander son avis à Reto. Alors, selon ses exécutives, les hard seltzer, les Truly, hein, ceux qui sont vendus par Boston Beer Group, ils pourraient ou devraient représenter de l'ordre de 15% de leurs ventes cette année encore, donc en 2021. Ça paraît incroyable quand tu le lis comme ça. On parle quand même d'un groupe qui a plusieurs marques, plusieurs catégories de produits, puis qui gagne plutôt bien sa vie, en tout cas en termes de chiffre d'affaires. Ça t'a pas étonné qu'ils en soient déjà là, quoi. Pas loin d'une boisson sur cinq qui, en termes de chiffre d'affaires, génère la proportion que je viens
ça,
de donner.
Ça me semble aussi assez monstrueux. Comme tu l'as dit, c'est un groupe qui fait déjà beaucoup de bière, mais en plus du cidre, etc. Donc ils ont vraiment beaucoup de un grand portfolio. Après, c'est vrai que voilà, sauf erreur, sur le marché US, c'est le deuxième produit le plus vendu après White Claw, ce Truly. Donc ils ont voilà bien pénétré le marché, mais voilà, après c'est ça reste les États-Unis, on sait que ça fonctionne différemment. Je pense qu'en Suisse, je m'attends pas à de telles proportions, en tout cas pour ce qui est de l'assortiment chez Dr Gabs.
Tu sais, moi, ce que je pense que le hard cider et le hard iced tea, ils le mettent dans la partie hard seltzer. Et à mon avis, c'est en cumulant, en fait, parce qu'ils ont donc ces trois produits qui arrivent à 15%, parce que ça me paraissait vraiment énorme.
Oui, effectivement.
Du coup, c'est pas anodin, 15%, je dirais, même si c'est aux US, c'est une autre dynamique. Vous, c'est également quelque chose que vous viseriez, côté Dr Gabs, d'avoir, en fait, des gammes qui sont... Allez, peut-être avec un risque de cannibalisation, mais surtout complémentaire, un petit peu comme le cidre me paraît complémentaire à la bière. Est-ce que ça fait partie d'une logique stratégique? C'était finalement juste pour se marrer?
Disons, en tout cas, on fait voilà. Le premier point, c'est effectivement de se marrer, puis de faire des choses qui nous paraissent sympas. Ça fait il y a quelques années, on a lancé le crafty, donc le cidre, et c'était aussi voilà comme produit complémentaire avec un peu de cannibalisation, mais pas beaucoup. Puis le hard cider, le hard seltzer, pardon, pour moi c'est la même logique. Évidemment, c'est certains moments de consommation qui se ressemblent, là on en a parlé, mais je pense que c'est pas forcément toujours les mêmes personnes. C'est aussi des attributs qui sont un peu différents. On n'aura pas du tout le côté amertume qu'on a dans la bière. On n'a pas du tout le côté le gluten aussi, hein. C'est voilà, le hard seltzer, c'est sans gluten, c'est très léger en calories. Donc on remarque dans la com de ces grands groupes, souvent ce qui ressort, c'est aussi ce côté qui est faible en calories. Donc voilà, je dirais que pour moi, c'est assez complémentaire à la bière. Oui.
Au niveau du positionnement, au niveau prix, par rapport à une canette qui serait canette de 33 Dr Gabs, ça représente combien de pourcents par rapport au prix de vente d'une canette? Le prix de vente du hard seltzer.
Tu vois, Raoul, comme il a tourné le truc pour quand même avoir la réponse à sa question, quoi.
Tu vois,
je te félicite.
Hey, c'est toi qui m'as appris de poser des questions un peu vente, marketing et chiffres, non?
Je laisse 3 secondes de plus à Reto pour pouvoir quand même pas répondre à ta question, quoi.
Je vais essayer de pas répondre, mais non, non, c'est. Mais disons, on est sur des prix similaires à la bière. Après, voilà, ce qui pour moi fait du sens, c'est des produits, en termes de taux d'alcool, t'es un peu similaire, la fonction est un peu similaire, donc pour moi c'est assez logique d'être sur quelque chose qui ressemble à une bière légère, quoi.
Je me suis demandé c'est quoi les marchés qui seraient susceptibles d'accueillir ça positivement avec des bonnes croissances. Alors, au début je m'étais plutôt dit que ça allait être UK, le nord de l'Europe. Et puis je reconnais que plus je lisais des infos qui venaient du marché français, puis plus je me disais que partout où il y a des jeunes, ça pourrait fonctionner. Vous en pensez quoi, vous?
C'est effectivement un produit, je pense, qui est assez orienté sur les jeunes, et puis des jeunes, il y en a partout. Donc a priori, je vois pas forcément de limitation au niveau géographique. Après, c'est peut-être plus sur les voilà sur la culture des pays. Intuitivement, je dirais aussi plutôt le côté anglo-saxon, Scandinavie. Enfin, c'est aussi un peu par là que aussi la vague de la bière craft est arrivée.
On va peut-être conclure là, parce que j'ai dit que j'avais deux chiffres. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est 1,75 milliard de dollars. C'était la valeur du marché, grosso modo, aux US en 2019. Bah, les projections pour 2022, donc c'est que l'année prochaine, c'est 4,7 milliards de dollars. Bon là, c'est du coup plus largement qu'aux US, quoi. C'est au niveau mondial, mais c'est un marché dont on va certainement encore entendre parler dans les années à venir. Et puis, j'étais à deux doigts d'oublier la fameuse question que j'avais promis hein, à ceux qui voudraient gagner un 4-pack de Hard Seltzer by Dr. Gabs. Donc, je crois que c'est le moment de la poser, cette question. Vous me rappelez, les gars, ben, vous auriez oublié.
Ouais, je pense que j'aurais oublié.
Mais on t'aurait rappelé, ouais, Marco, on t'aurait pas laissé tomber comme ça.
Tu crois? Bon, allez, je vais la poser, cette question. Là, en fait, on en a parlé pendant un petit peu plus d'une demi-heure, je crois. Si je regarde mon compteur, ouais, c'était même pas loin de 40 minutes. Et puis, bah, la question, elle est toute bête, mais il n'y a pas de question bête que j'aimerais poser à notre audience et puis à tous ceux qui sont connectés à Facebook, Twitter ou Instagram et qui rêvent de gagner ce 4-pack de canettes Hard Seltzer by Dr. Gabs. Eh bien, il vous suffit de poster sur l'un de ces trois réseaux sociaux avec une référence au handle Nipcraft, bah, quelle est votre définition du Hard Seltzer? Un petit indice chez vous, c'est que je dirais qu'il y en a une en titre de cette émission, donc me dites pas que la question est trop difficile, et puis si vous avez des questions de compréhension, vous pouvez revenir vers Raoul.
Merci Marco, c'est volontiers que je suis à votre disposition.
Non, c'est Warco Brienza, mon handle. Alors les questions les plus bêtes, vous me les posez à moi.
Si elles sont vraiment trop bêtes, il me les forwardera chez moi.
Si elles sont vraiment trop bêtes, on n'y répond pas, quoi. Je propose qu'on les perde en chemin.
C'est pas sympa. On dit pas qu'il y a des questions bêtes, on dit qu'il y a des réponses stupides.
Joli, merci pour ce rappel. Et je me disais que si vous aviez plus grand chose à ajouter sur la partie Hard Seltzer, on passait à la partie inspiration, mais je veux pas vous couper la chic.
Vas-y, c'est parti.
Ouais, peut-être juste encore une petite question pour Reto. Challenging, en fait, au niveau diversification. Moi, j'aime bien la diversification. Hein. On en parlait déjà avec Michel la semaine dernière. Marco, il se marre, hein, lui. Mais c'est vrai que je me disais, bon, on part de bière, on fait des limonades gazeuses, alcoolisées, aromatisées et tout, aux fruits. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'une brasserie craft ne pourrait pas aussi faire une limonade, simplement? Parce que plutôt que ces marques industrielles de limonade qui sont beaucoup trop sucrées ou voilà, et pas forcément avec des fruits ou des productions régionales locales, pourquoi pas avoir une limonade aux fruits de la région qui serait produite par une brasserie craft aussi.
Oui, mais t'as raison. D'ailleurs, bon, ça se fait un petit peu. Hein. Moi, je me souviens d'avoir fait un stage dans une brasserie dans la région de Munich qui était voilà à la base une brasserie qui ont ajouté des limonades petit à petit dans leur assortiment, puis au final qui faisait 90% de limonade. Donc, je pense qu'il y a voilà des brasseries qui évoluent comme ça. Et puis c'est vrai que c'est assez connexe à la bière aussi. Maintenant, bah, c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a déjà eu dans le coin de la tête. Après, bon, ben voilà, on peut pas tout faire. On a décidé de se concentrer quand même essentiellement sur la bière et puis des produits fermentés, disons. La limonade artisanale, je pense qu'il y a clairement du potentiel. Après, peut-être que la valeur ajoutée est aussi plus faible que dans un produit, disons, transformé, travaillé, fermenté, etc. C'est peut-être plus difficile d'être concurrentiel, surtout au niveau prix par rapport à des acteurs comme Enyé et autres sur le marché, quoi.
Là, tu me tends une telle perche, Raoul, que je vais quand même la saisir. Je sais que tu n'étais pas conscient de cette perche tendue. Sache que il y a une idée que j'ai soumise, et puis j'ai la réponse à l'idée que j'ai soumise, donc ça va répondre à ta question. Pour moi, clairement, il y a une opportunité. Je ne vais même pas dire il y a une opportunité de faire une limonade craft qui serait la limonade parfaite pour les panaches. Là, il y a vraiment des questions gustatives qui me paraissent importantes. Le but étant en fait d'avoir moins d'alcool dans une boisson pour des gens qui roulent. C'est ça un petit peu la base d'un panache, quoi. Pourquoi est-ce que les gens boivent un panache, donc un produit qui est manifestement dilué? Et je suis convaincu qu'il y a de la place, et là c'est au culot que je le dis, pour réussir à convaincre un acheteur retail de pouvoir en fait placer ça sur le rayon bière. parce que ça lui ferait vendre plus de bière, le fait de pouvoir la mélanger avec la bonne limonade. La réponse qu'on m'a faite au moment où j'ai présenté ça, c'était une brasserie craft qui était basée en Suisse, c'était que c'était pas assez craft.
Bon alors, pour une fois, on est d'accord, Marco, sur le potentiel commercial d'un produit. Effectivement, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Pourquoi mettre du Sprite ou une limonade industrielle dans une bière, finalement ? Autant le faire jusqu'au bout et prendre une limonade artisanale aussi pour le faire, quoi. Ouais, non, pour le coup, je te rejoins complètement.
Surtout que c'est beaucoup plus simple. Vous savez quoi ? On va se garder ça dans un coin de la tête pour une prochaine émission. Genre, qui veut gagner des limonades craft encore pas produite. Et puis pour le moment, on revient à la partie inspiration. On va dire que c'était un brainstorming
live. Inspirant, ouais, ouais. Et puis la fois suivante, il nous fera une bière avec du boulot, Marco.
Ouais, référence à une précédente émission sur le produit détox Saucève. Mais bon, on va quand même aussi continuer à parler de bière.
Quoi. Ouais, quand même. Parce que là, sinon, les auditeurs, ils vont se dire, mais attends, les gars, ils font un podcast sur la bière, mais ils parlent d'eau de boulot, de bière sans alcool, d'art seltzer et tout, mais c'est pas sérieux. Et moi, je dis, la prochaine émission, il faudrait qu'on la fasse vraiment sur un thème, vraiment bière, qu'on retrouve les sources, quoi, vraiment. Hein ?
Ouais. On se note ça. Tu vas pas être déçu, hein, parce qu'il y a un pur sujet bière pour la prochaine fois, mais vu que je m'en rappelle pas bien, je préfère pas le dire.
Alors, on est deux, parce que je m'en rappelle pas non plus.
C'est kombucha, c'est ça, hein ?
Ouais, la prochaine émission c'est kombucha, exactement.
Puis la suivante c'est le vinaigre. Excellent. Le vinaigre et la moutarde.
Excellent. Bon les gars, ça vous intéresse que je poste un article sur quelques explications au niveau du hard seltzer, mais donné cette fois par le quotidien 20 minutes en France. J'ai bien aimé le côté, j'ai envie de dire, vulgarisateur et puis honnête de cet article. C'est pour ça que je l'ai cité, quoi, parce que les gens ne comprennent pas bien ce que c'est. Et puis je trouvais qu'avec cet article-là, bah, j'avais un peu mieux compris, moi. Bon, puis pour ceux qui aiment bien lire autre chose que 20 minutes, j'ai une citation d'un philosophe allemand que j'aime beaucoup, quoi. Ouais, c'est peut-être toi qui pourrais la lire, du coup, la citation.
Comme il m'enfile la balle, mais très volontiers, Marco. Le talent frappe une cible que personne ne peut atteindre. Le génie frappe une cible que personne ne voit. De Arthur Schopenhauer, philosophe allemand.
Ouais, je suis un immense fan de Schopenhauer, qui est un des trucs les moins glauques qu'il dit. Parce que moi, j'adore Schopenhauer, mais il faut vraiment être, faut être bien dans sa tête pour lire du Schopenhauer, parce que il était quand même assez sombre, hein, ce garçon. C'est pas le seul philosophe à être un peu sombre, mais là, qui nous rappelle la différence entre le talent et le génie, moi, ça m'a énormément parlé, parce qu'en fait, le talent, j'ai l'impression que c'est ce que tout le monde vise. Et il nous le rappelle de manière presque taquine. Moi aussi, j'ai envie d'être reconnu comme talentueux. Et puis, en fait, en disant ça, je dis peut-être l'erreur que je commets, c'est parce que j'ai pas envie d'être talentueux pour les autres ou pour le regard des autres. Ce talent, il doit bien servir à quelque chose au niveau d'une communauté, pas seulement d'une personne. Et puis, bah, c'est là qu'on retrouve quand même ce côté, alors pas négatif, mais peut-être plus dans l'obscurité, c'est que le génie, hein, c'est peut-être au-dessus encore du talent, mais par contre, le génie n'est jamais reconnu. Parce que lui, en fait, il frappe quelque chose que personne ne voit. Et quand on ne voit pas quelque chose, un petit peu comme Saint Thomas, on pense que ça n'existe pas, alors que c'est peut-être pas encore là. Donc voilà, ça m'a fait penser à une ou deux fois où quand on a raison trop en avance, en fait on a tort. Voilà, ça m'a rappelé cette autre citation.
Et puis ça nous dit aussi qu'il y a toujours des voies différentes de faire les choses. C'est pas parce que tout le monde ou la majorité des gens vont dans une voie et foncent dans une voie que c'est forcément la voie à suivre. Et qu'en prenant un petit chemin de traverse, on peut aussi arriver soit au but, soit à d'autres buts, soit à une réussite qui n'est pas forcément la même que tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'après, derrière nous, il y a tout le monde qui ne nous suit pas et justement que ça devient en fait la cible à atteindre.
Voilà. Oh, j'ai senti la référence à la limonade au boulot, là, mais je sais pas si c'était voulu. Hein.
Vous savez, j'aime bien ces citations pour ce qu'elles peuvent apporter dans la nuance, quoi. Après, bah, on pourrait disserter là-dessus pendant 45 minutes. Puis là, on arrive quand même au terme de l'émission. Vous la retrouverez d'ailleurs, hein, dans les notes d'émission, ainsi que tout ce qu'on a pu partager comme élucubration et comme information clé. Les informations clés, c'était plutôt du côté de Reto Engler, et je le remercie beaucoup pour ça. Les élucubrations, c'était plutôt du côté de Warco Brienza, un petit peu aidé par Raoul, mais c'est plutôt Warco qui a tenu le bâton aujourd'hui. Si vous voulez retrouver les précédentes émissions, on en a 15, on a fait le compte encore tout à l'heure avec Raoul, et elle se retrouve sur le site de nipcast.com, sur la section Nipcraft. Vous pouvez retrouver Raoul, et d'ailleurs Reto, vous allez rappeler vos handles, pour ceux qui aimeraient bien vous parler, sur les médias sociaux, vous êtes d'accord ? C'est quoi ces handles ?
Alors moi je ne sais pas par cœur, parce que je ne vais jamais me rechercher dans les réseaux sociaux, mais je crois que c'est Raoul Gendreau simplement, finalement, non ?
Ouais, je crois bien.
Exactement.
Pas très original, mais...
Voilà, moi c'est pareil, @RetoEngler, sur les médias sociaux.
Ouais, et c'est en tout cas Instagram, sauf erreur, c'est aussi Twitter.
Et voilà, puis, c'est Facebook. Instagram, Facebook, voilà. Et puis Twitter de manière très parcimonieuse.
Ouais, alors je suis comme Reto. Okay. Moi. Alors si jamais, moi je demande toujours à Marco de me faire un message, un SMS quand j'ai des messages qui viennent sur Twitter, parce que sinon je ne vais pas les voir. Et après, il y a des auditeurs qui nous ont posé des questions et on ne leur répond pas. Alors merci, merci Marco. Et moi je fais la même chose inversement sur Facebook, parce que quand on a des questions sur Facebook, ben, j'envoie un petit message SMS à Marco pour qu'il aille voir.
Je vous dis, on va bientôt avoir l'air d'un vieux couple avec nos mêmes micros, avec nos SMS en parallèle, des infos qu'on se balance sur les médias sociaux. On est chou avec Raoul.
En tout cas, merci Reto. Et puis, ciao tout le monde. Bye bye.
Avec plaisir. Ciao. Merci pour l'invitation. À bientôt.
Ciao, allez, ciao. Salut à tous.